sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le cinéaste Régis Varnier est reçu sous la coupole de l'Institut de France au sein de l'Académie des Beaux-Arts par son confrère Marc Ladret de La Charrière, au fauteuil du cinéaste Henri Verneuil, décédé en 2002. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance, suivie de la cérémonie de remise de l'épée du nouvel académicien qui s'est déroulée dans la foulée le mercredi 1er février 2012. Vous entendrez dans cette émission le discours d'installation de Régis Varnier, prononcé par Marc Ladret de La Charrière, son confrère, financier et grand mécène, très attaché au patrimoine culturel de son pays, puis la réponse d'usage du nouvel académicien Régis Varnier, membre de la section création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel, rendant hommage à son prédécesseur, Henri Verneuil, dont l'immense succès populaire a éclipsé l'indéniable talent. Autour de la figure tutélaire d'Henri Verneuil, un vibrant éloge d'un cinéma français aujourd'hui disparu est ainsi rendu par le nouvel académicien qui rejoint ses confrères Pierre Schoendoerffer, Jeanne Moreau, Jean-Jacques Haneau et Roman Polanski, les membres actuels de la famille du cinéma au sein de l'Académie. La cérémonie sous la coupole a été suivie de la remise de l'épée académique. Pour la circonstance, le président du comité de l'épée, Stéphane Richard, PDG d'Orange France Télécom, a prononcé une allocution sur le bel objet fabriqué à Phnom Penh au Cambodge et arrivé quelques jours plus tôt en avion. Cette épée d'inspiration asiatique a été remise au cinéaste des mains de Catherine Deneuve, qui a tourné dans plusieurs de ses films. Retrouvons sous la coupole François-Bernard Michel, président de l'Académie des Beaux-Arts en 2012, pour l'ouverture de la séance.
La séance est ouverte. Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication, Madame, Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Chancelier, Madame, Messieurs les Secrétaires Perpétuels, chers confrères, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts et ses membres ont la joie d'installer sous cette coupole de l'Institut de France leur confrère Régis Varnier, élu le 4 avril 2007 dans la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, au fauteuil précédemment occupé par Henri Verneuil. Un grand du cinéma français succède donc à un grand prédécesseur. Notre confrère Marc Ladret de La Charrière va accueillir Régis Varnier, qui rendra ensuite hommage à Henri Verneuil. La parole est à Monsieur Marc Ladret de La Charrière.
Monsieur, vous étiez attendu. Vous qui aimez la lumière des stades, où il fait toujours beau, vous voici sous cette coupole, en majesté, où le jour est rendu plus intense par l'éclat des projecteurs. Ici, l'habit prend la lumière comme sur un plateau de tournage, reflet ou miroir de couleurs immortelles. Nous vous attendions, monsieur. Vous avez été élu au fauteuil d'un grand cinéaste, Henri Verneuil. Mais c'est aussi plus qu'un cinéaste que nous attendions. Nous attendions un créateur, un artiste, et je dirais surtout un homme de cœur et un homme de bien. En préface de son film « Le mépris », Jean-Luc Godard cite cette phrase du critique André Bazin. « Le cinéma substitue à notre regard du monde un monde qui s'accorde à nos désirs. » Cette phrase, vous l'avez jugée incomplète. et vous y ajoutez un mot qui en précise le sens et donne sa signification à votre œuvre. Le cinéma, dites-vous, substitue à nos regards le vrai monde et le remplace par un monde qui s'accorde à nos désirs. D'un mot, vous définissez ainsi la composition subtile de votre vie de créateur, que vous appelez le vrai monde, que vous distinguez du monde du cinéma, celui de vos créations. Du vrai monde ou de l'autre, lequel prend le dessus ? Sans doute les avez-vous placés tous les deux dans ces boîtes noires que nous avons rassemblées aujourd'hui pour vous accueillir au sein de notre compagnie. Aussi, grâce à vous, et certainement pour la première fois dans cet amphithéâtre solennel, je vais honorer une tradition du cinéma russe et d'Europe orientale. Une tradition que vous avez vous-même découverte et aussitôt respectée pour votre film « Est-Ouest ». Le premier jour du tournage, on casse une assiette. On en remet un fragment à chacun de ceux qui vont y travailler. Et le dernier jour, quand tout est en boîte, on reconstitue l'assiette. Celle-ci symbolise l'ouvrage dans son entier, ses moments forts, ses déceptions, ses ambitions. Elle figure une histoire, un scénario, l'autre monde dont vous parlez. Mais cette même assiette peut tout aussi bien représenter le vrai monde. Le film de votre vie pour l'art, pour le cinéma et tout ce que vous avez voulu incarner en offrant aux autres cette générosité qui est votre seconde nature. Alors, je vous propose de briser symboliquement notre assiette. Lumière, la première scène date de 1948, une formidable année de création cinématographique. Un feu d'artifice de talent, l'année de Dédé d'Anvers, l'année des Amants de Vérone, celle de Jour de fête, celle de L'Aigle à deux têtes, du Voleur de bicyclette, de La Dame de Shanghai, du Massacre du Fort Apache et de La Dame au manteau d'hermine. Sans oublier ce drame ultra-romantique des Chansons rouges. C'est un peu le défilé du cinéma français, italien, britannique, américain dans ce qu'il a de meilleur. Et, monsieur, vous voyez le jour, cette année-là, le 18 avril 1948. C'est l'année des Kayat, d'Allegré, de Tati, de Cocteau, de Sica, de Ford, de Lubitsch, d'Orson Welles. Tous ces géants que vous allez découvrir les uns après les autres, quelques années plus tard, durant les séances du jeudi après-midi au cinéma de votre quartier. Votre père, oui, votre père, est officier de l'armée française. Il a vécu le désastre et votre mère, la solitude. Vous êtes le fils du retour, du drame de la séparation qu'ont vécu vos parents, du chaos sentimental, de la force de la vie, vous vous inspirerez un jour quand vous aurez 45 ans et que votre mère aura disparu pour écrire votre film « Une femme française ». À l'époque, l'Allemagne est dévastée par les conséquences de ses propres folies. Elle est occupée par 4 armées étrangères et dans les bagages de votre père, vous partez pour la zone d'occupation française, votre nourrice parle allemand. Après l'Allemagne, c'est l'Indochine. Après l'Indochine, c'est l'Algérie. Pour votre père, un traumatisme suit l'autre. Pour votre mère, un déchirement suit l'autre. Et pour vous, une absence. Votre refuge, c'est le cinéma. Déjà, le lycéen, puis l'étudiant en lettres classiques à Nanterre et avant tout un fanatique de cinéma. En cette fin des années 60, où la jeunesse est en ébullition, pour vous, Hérodote et Thucydide sont des héros de films. Et pourquoi ne pas pousser plus loin en mariant les études et la passion? Pourquoi ne pas faire l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques? Mais l'IDEC est fermé pour cause de révolution. Alors, faute de mieux, vous faites de la photo, par goût de l'image et pour apprendre. En bas de chez vous habite un régisseur, un professionnel du cinéma. Ce régisseur s'appelle Nanar et il travaille pour Claude Chabrol. Il a un petit boulot pour vous. À 20 ans, la chance vous tend la main, monsieur. Chabrol tourne la décade prodigieuse avec des stars qui ont pour nom Michel Piccoli, Anthony Perkins, Orson Welles, Marlène Jobert. Le metteur en scène a besoin d'une doublure lumière. Qu'est-ce qu'une doublure lumière? Que rêver de mieux? La doublure lumière, c'est la doublure de l'acteur qui accède au plateau pour les réglages techniques. Il joue l'acteur. Il a sa taille, il a le même parcours que lui, il fait les mêmes démarches que lui. Et vous voilà, monsieur, sous la lumière des projecteurs, dans l'œil de la caméra. Doublure de Piccoli, puis doublure de Belmondo. Oui, 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 de Belmondo. Chabrol vous emmène partout et vous gravissez la hiérarchie du métier. Premier assistant, deuxième assistant, assistant caméra. Un jour, on va même vous nommer régisseur, l'homme qui s'occupe de tout, de l'intendance et de l'organisation. Et en quelques années, vous gagnez en expérience bien plus et bien mieux qu'en autant d'années que vous auriez passé à l'Institut des hautes études cinématographiques. Après Chabrol, ce fut Jacques Perrin, Francis Giraud, Patrice Lecomte, Jean-Pierre Denis. Les années passent trop vite. À quand le premier film, monsieur? Il a fallu attendre que vous ayez 37 ans. Un long mûrissement, un très long mûrissement. Celui de l'écriture, de l'étude, de la musique, de la connaissance des images. Ce premier film avait grandi en vous, lentement, jusqu'à s'imposer à vous. Vous direz en matière de confidence, et je vous cite, « Je me suis trouvé tard ». Ce film, vous lui donnez un titre chargé de sens, « La femme de ma vie ». C'est un film sur l'amour, un film sur l'amour de la musique et la musique de l'amour. Vous le réalisez en 1986 et vous savez déjà réunir un quatuor magique avec Jane Birkin, Dominique Blanc, Jean-Louis Trintignant et Christophe Malavoie. Dominique Blanc vous écrit un mois après la fin du tournage avec ces mots. Régis, que ce film doit être beau, qu'il bouleverse, qu'il fasse frissonner et rire. Saisisse d'émotion et trouble tout entier, parce que tu es, cher Régis, quelqu'un de rare, rare d'exigence, rare de perfection et rare de passion. Parce que tu aimes véritablement les acteurs, parce que tu les fais renaître et qu'ils s'en émeuvent encore un mois après et toujours certainement. Thème du film, le musicien virtuose qui tombe dans l'alcoolisme, révélateur de tous tes paroxysmes. La musique est une manière de raconter l'histoire de vos personnages et elle vous autorise toutes les audaces. Vous avez trouvé là une exceptionnelle justesse de ton. Ce film vous vaut un César de la première œuvre, succès qui vous entraîne tout de suite dans l'écriture et la réalisation sur un timbre analogue du film suivant « Je suis le seigneur du château », bâti sur une musique de Prokofiev, et il suffit de l'écouter pour que les images viennent. Et ici, elle montre le duel de la mort de deux enfants. Ces deux films forment un prologue. Ils n'ont consommé que des budgets modestes. L'opéra est à venir. Il va exiger un gros budget, énormément de travail. L'idée de ce film est née de votre rencontre avec un jeune producteur qui rêvait d'une Madame Butterfly adaptée pour le Vietnam des années 30 avec un officier français et une princesse vietnamienne. Le producteur ne dit pas Vietnam, mais Indochine. Et à ce mot d'Indochine, cher monsieur, vous voilà emporté, vous voilà séduit, vous voilà conquis. Cette Indochine dramatique qui avait appelé votre père officier, cette Indochine romantique qui a fait basculer tant de destins, cette Indochine mythique traversée de part et d'autre par le Mékong, fleuve que vous chérissez parmi tous, car il a su, je vous cite, trouver son chemin, dessiner les paysages. Car sa lente descente se révèle pour vous sensuelle et poétique. Vous aimez l'océan, vous aimez les côtes de l'océan, qu'elles soient bretonnes ou vietnamiennes, mais plus encore, vous aimez ces fleuves qui, dites-vous très justement, et je vous cite, représente un lien entre les pays et les civilisations. Et vous vous mettez donc à l'ouvrage. En ayant demandé à deux romanciers, Éric Orsenna, aujourd'hui votre confrère de l'Académie française, et Louis Gardel, ainsi qu'à une scénariste Catherine Cohen, de s'associer à vous pour les rédactions du scénario. La maison de campagne louée pour l'occasion résonne tout entière de cette histoire en construction, mille fois imaginée de façon différente, mille fois détruite aussi, mais pour finalement exister et de la plus belle des manières qui soient. Il faut que ça soit un opéra de rêve, un autant porte-le-vent à la française dans le labyrinthe de la baie d'Along. Encore fallait-il une reine dans cet opéra et un jeune lieutenant de vaisseau aussi beau que la marine. Alors, vous allez chercher Catherine Deneuve et Vincent Pérez. La digne beauté d'une planteuse de caoutchouc, Catherine Deneuve, direz-vous, est apparue superbe, pudique. Tout le monde avait le trac de tourner avec elle. Vous dites aussi, elle s'est littéralement jetée dans le film. Elle voulait s'impressionner elle-même, mais elle voulait aussi m'impressionner et impressionner tous les autres. C'était beau. Et elles furent épuisantes, ces longues journées de tournage, au Vietnam, puis en Malaisie. Est-ce qu'au cours de ces si difficiles semaines qu'est née votre passion pour le thé ? Aujourd'hui encore, cette boisson millénaire aux vertus énergisantes rythme votre journée. Et il vous en aura fallu de l'énergie et de la persévérance pour surmonter les difficultés du tournage. Un jour, les figurants, quasi affamés, sont tous partis avec les sacs de riz prévus pour un plan. Un autre jour, c'est tout le décor qui s'envole, soufflé par un ouragan. Mais, au bout des efforts, quel hommage ! Le film sort au printemps 1992. Il soulève une vague d'éloges qui vous transporte pendant un an afin de le promouvoir partout dans le monde, de l'Australie à l'Argentine, mais d'abord, naturellement, en Amérique. La Mecque du 7e art, avec vos allers-retours à Los Angeles, Hollywood, les nominations aux Golden Globes, le succès, la soirée des Golden Globes, puis la nomination aux Oscars et la soirée de rêve aux Oscars. L'Oscar du meilleur film étranger et celui de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve. Un Oscar remis par Glenn Close. Inoubliable, bien sûr. Combien de films français ont-ils eu depuis un tel palmarès ? Votre bonheur est immense. Vous le partagez naturellement avec votre ami, votre soutien constant et fidèle, Bertrand Labbé. Cette année de promotion est vécue avec un emballement tel qui vous interdit quasiment de travailler. 2 ans après cette année à tout point extraordinaire, voici une femme française. C'est une histoire personnelle, intime, intense. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. La critique est terrible. C'est un désastre. Elle ne veut pas comprendre ce somptueux mélodrame interprété par Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Béard après Deneuve, après Birkin. Le film, dites-vous, en tirant la leçon de cet accueil détestable, a été vu en deux temps. D'abord, la beauté. Et puis, sous la beauté, quelque chose qui a saisi le spectateur et l'a mis à mal, il ne me l'a pas pardonné. Emmanuel Béard a joué le jeu. Nous nous sommes brûlés tous les deux, mais nous n'avons aucun regret. Alors, l'échec serait-il si dur à supporter après le succès mondial précédent ? Silence. La remise en question, c'est du travail. 4 années de travail pour l'œuvre suivante. L'histoire ne vous quitte pas. Vous la retrouvez une fois de plus au milieu de ces terribles années 40 et en pleine Russie stalinienne. Un destin tragique à nouveau. Celui des émigrés russes à qui Staline a fait la promesse de leur offrir, à leur retour dans la mère patrie, la nationalité et l'amnistie, et qui vont être, au contraire, atrocement bernés, enchaînés et torturés. Pour le scénario Est-Ouest, vous êtes de nouveau tourné vers votre ami Louis Gardel, qui écrit en compagnie de 2 écrivains russes afin de respecter au plus près la reconstitution de la vie quotidienne de cette époque. Et pour interpréter ce drame si puissant et si dépouillé, une Sandrine Bonner bouleversante dans le rôle d'une jeune Française qui a épousé un émigré russe trahi. Cependant que Catherine Deneuve, encore une fois, revient avec son aura personnelle consacrer le moment d'espérance et de liberté qui conclut le film. Il est le film préféré de beaucoup de mes proches, dites-vous. C'est peut-être mon plus beau film. La critique accompagne en 1999 cet hommage émouvant à des sacrifiés de l'histoire que ces acteurs font revivre si brillamment, évitant à leur sacrifice inutile un oubli qui, pire qu'une faute, serait un nouvel assassinat. Monsieur, depuis Indochine, à travers le regard lumineux de vos interprètes, à travers la musique qui rythme le jour, la nuit, la mer, vous ne posez en définitive qu'une question. D'où vient la grâce ? Belle question qui parcourt votre œuvre et à laquelle vous allez peu à peu apporter ces éléments de réponse. D'où vient la grâce ? Il y a bien évidemment celle des femmes de votre vie, vos interprètes, Dominique, Jeanne, Catherine, Rachida, Marie, Lindane, Emmanuel, Sandrine, Christine, autant d'actrices exceptionnelles qui comptent parmi les plus belles du cinéma français et dont vous avez su, monsieur, sublimer le talent et l'insolente féminité grâce à votre sensibilité et à votre finesse. Ces qualités de direction et de mise en scène, comment ne pas les mettre en parallèle avec cet haut métier que vous admirez tant, celui de chef d'orchestre. Comme eux, et je vous cite, vous devez séduire, convaincre, fédérer, veiller aux détails et aux grandes courbes. La musique accompagne votre quotidien, professionnellement et personnellement. Et c'est là aussi, pour vous, source de grâce. Il y a aussi la grâce qui naît de votre engagement. Celui-ci est une part de vous-même. Vous allez la révéler en public en 2005. Il y a naturellement, certes, les honneurs et la consécration. Vous en savez quelque chose. Mais cette année-là, vous faites partie du Festival de Cannes, présidé par David Lynch. Et auprès de vous figurent aussi bien Sharon Stone que Michelle Yeoh, la future Lady. De même, Vous êtes bien amusé ce jour-là lorsque Brian De Palma vous fait jouer votre propre rôle de metteur en scène de Sandrine Bonnaire dans son film « Femme fatale ». Mais si vous vous révélez en 2005, c'est parce que vous traduisez sur la pellicule une très forte plaidoirie pour la liberté et pour la dignité des hommes. C'est un apologue que vous filmez, une vraie réflexion philosophale et morale, en emmenant dans l'Europe de la fin du XIXe siècle un couple de pygmées d'Afrique australe que l'on montre dans les foires comme des bêtes curieuses et qui sont pourtant des hommes comme nous, doués d'intelligence, de sensibilité, d'imagination, à l'égal de ceux qui portent sur eux un regard soit surpris, soit méprisant. Et c'est donc une fable sur la civilisation que vous appelez « man to man », une leçon d'homme à homme. Et pour confirmer cet engagement, vous acceptez la proposition du ministère de l'Éducation nationale de présider un jury de films vidéo intitulé « Pour un autre regard ». En 2007, c'est un tout nouveau genre que vous vous mesurez en réalisant « Pars vite et reviens tard ». C'est un polar adapté du roman éponyme écrit par Fred Vargas. C'est l'occasion pour vous de filmer tout en noirceur un Paris très inquiétant, en proie au retour de la peste. Et pour le spectateur, de découvrir José Garcia et Michel Serrault, deux générations d'humour à la française, camper des rôles inhabituellement sombres. Pars vite et reviens tard, sorti pour les 79 ans de Michel Serrault, et aussi l'une des dernières apparitions de ce comédien exceptionnel. D'où vient la grâce, monsieur ? Certainement des hauts plateaux éthiopiens ou des plaines marocaines, inlassablement parcourues par vous et inlassablement parcourues par des athlètes hors normes. Héros méconnus auxquels vous avez consacré le documentaire « Cœur d'athlète » en 2003. Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie, Hicham El-Guerrij, autant de noms mythiques qui résonnent aux oreilles du passionné d'athlétisme que vous êtes. L'athlétisme, dites-vous, et je vous cite, c'est le contraire des sports des pays riches. On court pour chasser, pour attaquer, pour se défendre. L'athlétisme restitue ce qu'il y a de premier chez l'homme, l'instinct de survie et le geste. Et d'ailleurs, si vous aviez dû pratiquer un sport de compétition, c'eût d'ailleurs été le 1500 mètres, car, d'après Régis Varnier, cette course, longue comme un court-métrage, possède, selon vous, une vraie dramaturgie. Vous étiez, avec votre caméra, sur le stade Charletti pour les Mondiaux d'athlétisme en 2003. Cela vous a impressionné et vous y revenez à un moment précis avec en tête un titre qui dit l'essentiel, la ligne droite, sorti en mars 2011. Ce que vous admirez chez les athlètes, je vous cite, c'est l'engagement, le but, l'énergie, le travail, la rigueur, le point au bout de la ligne droite et peut-être aussi la victoire. Mais il y a plus encore dans votre récit. Je vous cite de nouveau. Le vrai thème de la ligne droite, c'est la résistance, c'est le combat. C'est le combat contre le mauvais sort. Comment remonter la pente après un événement dramatique, voire tragique, et vous agitez, je pense que c'est en soi qu'il faut aller chercher. La grâce, c'est cela. Vous sortiez d'une période difficile, d'un film qui n'avait pas pu se faire, alors qu'il vous tenait à cœur. Vous avez, en effet, monsieur, été confronté à l'interdit. Dans votre film, il y était question de pouvoir et de discrimination. Le ministre de l'Intérieur, interprété par Christian Clavier, s'y est retrouvé expulsé de France, sans papier, sans portable. L'idée n'a pas plu au plus haut niveau de l'État et n'a pas pu se faire, faute de soutien, faute de financement. Alors, vous vous êtes trouvé en état d'urgence de travailler et la ligne droite s'est imposée. Ce devait être un film très solaire, avec beaucoup de lumière, un film avec une grâce particulière pour raconter l'aventure du jeune Yannick qui a perdu la vue dans un accident et qui va se reconstruire grâce à la course avec Leïla, elle qui sort de prison. Un handicap au secours d'un autre handicap. Et voici Rachida Brakni, si belle et si émouvante aussi. Et voici Cyril Descours, un pur athlète. C'était toujours un autre regard, d'autres saisons du cœur. Ce film, sincère et audacieux, est à l'image de votre carrière, au cours de laquelle vous n'avez jamais cessé de mettre en scène, monsieur, les sentiments. Comme l'a écrit si joliment Jean-Pierre Lavoignat, qui siège à vos côtés au jury du prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts et auquel vous nous faites l'honneur de participer, je le cite, « Au-delà des images, il y a toujours dans vos films quelque chose qui vit, quelque chose qui vibre, quelque chose qui cogne. » Monsieur, me voici parvenu au terme provisoire de votre parcours. Voici quasiment reconstitué l'assiette brisée au début de cette narration. Il manque pourtant un ultime fragment, sans doute le plus intime, le plus secret. Cette grâce, pour reprendre le mot que vous aimez découvrir dans le regard, les gestes, l'affection des gamins et des filles des lycées des cités, des banlieues, qui viennent à travers le programme Égalité de chance de la Fondation Culture et Diversité se présenter à vous. Ils viennent vous voir dans les anciens studios de cinéma de Pathé, rue Francoeur à Paris. Vous avez installé vos plateaux de tournage de tuteurs et de pédagogues, où vous présidez leur jury d'admission aux ateliers de préparation du concours de la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image, école qui a pris la suite de l'IDEC, l'Institut disparu et resté enfoui au fond de votre mémoire. Cette école qui fait vibrer ces jeunes en leur donnant de l'espoir. Et vous y êtes d'un dévouement, d'une fidélité, d'une présence qui suscite l'admiration. Ces enfants des cités, vous les aimez et ils vous le rendent bien. Vous n'en en manquez pas une réunion. Et le relais que se transmettent les athlètes sur la piste des stades, dans la ligne droite, c'est votre philosophie de l'existence. Vous aussi, vous avez voulu, monsieur, transmettre à ces jeunes ce que la vie vous a donné à travers le cinéma. Vous le faites avec une immense sensibilité, une humanité si attachante, une délicatesse extrême, qui sont les traits de votre personnalité. Permets-moi, en conclusion, mon cher Régis, de te dire que ce sont là, outre la richesse de tes talents que j'ai rapportés, les raisons pour lesquelles nous sommes tous fiers de t'accueillir parmi nous. Un mot encore, le dernier mot, le mot qui précède le silence et le noir, sauf naturellement sous cette coupole. Ce mot, le voici, il est de toi. Qu'est-ce qu'aimer ? Aimer, c'est plaire. Aimer, c'est vouloir plaire. Vouloir plaire, c'est séduire, se montrer sous son meilleur jour, travailler, être inventif, intelligent, audacieux, plaisant, brillant, fort. D'un mot, mon cher Régis, tu as tout dit. Merci beaucoup.
Je sais pas, c'est très délicat d'entendre parler de soi comme ça. Ça me laisse sans voix, ce qui est un peu dommage parce que j'ai un discours à faire. Ou en même temps, si je ne le fais pas, ce sera fini. Mais ce serait un peu dommage parce que M. Henri Verneuil nous attend. On dirait une scène tirée d'un film, et pourtant elle est bien réelle. Un homme, grand et brun, monte à vive allure les marches d'un grand escalier rococo. Depuis le palier supérieur, deux hommes le regardent approcher. Ils se postent devant lui. « Vous êtes Henri Verneuil ?» « Ah non, pas du tout, » répond l'homme. Il poursuit son chemin et entre dans les bureaux du quotidien La Marseillaise. Le rédacteur en chef l'entraîne à l'écart. « Achod, il faut que je t'explique. Quand j'ai reçu ton papier hier sur la commémoration du génocide arménien, j'ai pensé que tu ne pouvais pas le signer sous ton vrai nom. » Il se tourne vers son bureau où trône un calendrier avec une photo de Verneuil-sur-Avre et il ajoute « Pour le prénom, un roi de France, Louis-Henri, ça marche toujours. » À ce moment, les deux hommes du palier entrent dans les locaux. Achod se dirige vers eux. « Excusez-moi, messieurs, j'étais distrait, mais je suis bien Henri Verneuil. Monsieur Verneuil, nous représentons le consulat de Turquie à Marseille. » L'homme brandit un exemplaire du quotidien, le déplie. « Ça ne s'est pas passé comme ça. » Réaction immédiate. « Si, ça s'est passé comme ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas Henri Verneuil. Je m'appelle Achod Malakian et je sais de quoi je parle. » L'incident n'aura pas de suite. Mais quelques mois plus tard, Achod s'en souviendra le jour où il désirera se trouver un nom pour entrer dans le monde du cinéma. Il a fait preuve, lors de cette confrontation, de quelques qualités indispensables à un réalisateur, la capacité d'adaptation, le sens de la volte-face, l'art de se contredire. Son père, Agop, était établi à Rodosto, une ville portuaire sur les bords de la mer de Marmara, et c'est là qu'est né son fils unique, Achod. Au printemps 1915, Talat Pacha, ministre de l'Intérieur de la République des Jeunes Turcs, lance cette phrase. Quant à l'Arménien, le lieu où il a vécu ne le connaîtra plus, et le Turc aura ses biens et sa demeure en héritage. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, il faut mettre fin à leur existence. Agop Malakian perd tout, sa demeure et sa florissante entreprise de bateaux de pêche. Il prend la route de l'exil. De sa petite enfance, dans la grande maison et le jardin envahi de rosiers, Achod ne garde aucun souvenir. Il a 4 ans quand il débarque sur le port de la Joliette à Marseille avec son père, sa mère, Mayrig, et ses 2 tantes, Anna et Gaïané. Le premier souvenir d'Achod, c'est la crème glacée dégustée sur le vieux port. Il l'a trouvée trop liquide et pas assez crémeuse. La famille Malakian trouve une chambre où s'installer, au dernier étage d'un immeuble de la rue Paradis. Une chambre pour 5 et tous pour 1. Il faut donner au petit garçon de 4 ans toutes les chances de vivre et de réussir dans ce nouveau pays, car l'ancien est fermé pour toujours. Agop trouve un travail d'ouvrier dans une raffinerie de sucre, tandis que Mayrig, Anna et Gaïané répondent à une annonce de confection de chemises à domicile. Leur première chemise étant une réussite, elles sont engagées et conserveront ce travail pendant toute leur vie à Marseille. Quand Achod quitte la communale, son père et sa mère l'inscrivent dans la plus renommée des écoles privées, au prix de sacrifices importants et de la décision du père de passer au travail de nuit avec une paye double. Achod est conscient de tout, il comprend tout. Il choisit donc de ne rien laisser voir de ses propres désillusions ou difficultés, car il n'est pas accepté par les camarades de la nouvelle école. On se moque de son nom, de son prénom, de sa peau brune, de ses vêtements faux chics. Alors il s'isole. Et pendant des années, il passera seul dans une classe, le temps de la récréation, à rêver en silence. Ses parents n'en sauront jamais rien. La dévotion, l'amour qu'il reçoit ne lui laisse qu'une voie, réussir. Un jour, il s'arrête devant la façade d'une salle de spectacle. Une ligne retient son attention. Un film de Ruben Mamoulian. Des pans de mémoire remontent à la surface. Il y avait une famille Mamoulian à Rodosto. Il a 13 ans, c'est la première fois qu'il assiste à une séance de cinéma. Et là, il fait la connaissance de Greta Garbo dans La Reine Christine. Le film l'éblouit. Il rentre à la maison. Je serai cinéaste. Devant la consternation générale, il se tait et on n'en parle plus. Comment choisir votre carrière ? Tel est le titre du livre que lui conseille l'un de ses professeurs. Après des heures de lecture et de réflexion, Achot décide. Il sera ingénieur mécanicien de la marine militaire. Il faut d'abord faire l'école des arts et métiers, celle d'Aix-en-Provence. Condition première, être français. Un alinéa stipulait que l'exilé ou le réfugié pouvait prétendre au concours en sachant que son diplôme serait suivi de ces mots « à titre étranger ». Achot est reçu au concours, il entre à l'école et en sort diplômé. Le voilà ingénieur des arts et métiers. Heureusement, il s'arrête là et ne se lance pas dans la mécanique. Car il n'y a pas d'homme moins manuel que lui et plus maladroit. Moi, peut-être. Nous affichons, lui et moi, le même air perplexe, un peu perdu, devant un tournevis, un ouvre-boîte, un escabeau ou une télécommande. Achot a hérité de son père un talent de conteur. Il fait des piges pour le quotidien La Marseillaise, puis il entre au magazine Horizon, où il écrit dans la rubrique cinéma des reportages et des critiques de films. 1949, c'est l'année où il obtient la nationalité française. À partir de ce moment, il signe sous le nom d'Henri Verneuil. Ses visites sur les plateaux de cinéma l'encouragent à se lancer dans la réalisation de courts-métrages, 27 en 3 ans, mais c'est sur le tout premier qu'il fait une rencontre décisive. Le film « Escale au soleil » est un documentaire sur Marseille. Henri cherche une voix pour en assurer le commentaire. Il va carrément faire cette proposition au plus célèbre des Marseillais, Fernandel, qui accepte. Il retourne le voir 2 ans plus tard avec dans ses mains l'adaptation du livre de Marcel Aimé, La table aux crevés, qui reçut le prix Renaudot en 1929. Cette fois, Henri Verneuil se présente comme scénariste et auteur de l'adaptation du livre, pas plus. Fernandel, pas dupe et qui s'est pris d'amitié pour lui, se penche vers Henri. « Et si tu le mettais en scène, toi, mon petit ?» Et voilà, c'est le premier film. La table aux crevés est un conte campagnard, très immoral, avec l'accent provençal, où l'épouse d'Urbain, c'est Fernandel, a la bonne idée de mettre fin à ses jours, dans l'indifférence générale, ce qui laisse au jeune veuf la chance de faire sa vie avec la plus jolie fille du village, qui n'attendait que lui. Le premier mérite d'Henri Verneuil avec La table aux crevés, c'est d'avoir fait le film dont il rêvait. Sans se laisser dévorer par l'appétit, généreux mais insatiable, de Fernandel, et de donner ainsi une existence et une présence à tous les personnages. S'ensuit une série de films, Fernandel dans un film d'Henri Verneuil, en tout genre, comédie, policier, histoire de mœurs. C'est le film du samedi soir ou celui du dimanche après-midi, dans une France qui entame le début des Trente Glorieuses et qui n'a pas encore fait son examen de conscience de l'après-guerre. Henri a le talent de trouver les bonnes histoires et les bonnes personnes pour les raconter avec lui. Il adapte Le fruit défendu de Georges Simenon avec Jacques Companèse. Pour Le boulanger de Valorgue, un conte provençal à la Pagnole, il confie la musique à Nino Rota, juste quelques mois avant que Fellini ne recrute celui-ci pour I Vitelloni. Les scénaristes qu'Henri engage se nomment Michel Audiard, Henri Janson, Henri Troyat, Joseph Kessel. Et pour les interprètes, Daniel Gélin, Charles Boyer, Michel Morgan, Arletty, Mylène de Mongeau. Un film brille d'un éclat particulier au milieu de cette abondante production. Des gens sans importance, tourné en 1955. Jean Gabin y interprète Jean Viard, un chauffeur de camion dont la vie familiale est engluée dans une routine médiocre. Dans un relais routier, il rencontre Clotilde, une petite bonne d'une vingtaine d'années. Clotilde, c'est Françoise Arnoul. Un amour naît, mais Jean perd son emploi. Clotilde, enceinte, n'osera pas lui avouer son état et se fera avorter. Elle mourra près de Jean dans son camion, alors qu'il venait de trouver du travail et avait décidé de quitter sa famille pour elle. Film pudique, mise en scène épurée, acteur d'une très grande justesse, ce film atypique se situe à mi-chemin de la grande tradition française du réalisme poétique et de la nouvelle vague. C'est le 4e des films qu'Henri a fait avec Françoise Arnoul, c'est le premier avec Jean Gabin. Pourtant, ça avait mal commencé entre eux. Premier jour de tournage. Jean Gabin arrive sur le plateau où Henri a fait installer les 25 mètres de rail d'un travelling. Jean, sceptique, s'approche. Je ne savais pas que j'allais faire un film avec un chef de gare. Henri Verneuil, froissé, quitte le plateau et monte dans sa loge. Quand il en ressort, manteau sur l'épaule, Gabin l'attend. Bon, je ne savais pas non plus qu'on ne pouvait pas plaisanter. Chacun a pris ses marques, elles leur seront bien utiles pour la suite. En 1960, Henri frappe un grand coup pour sa dernière collaboration avec Fernandel. Près de 9 millions de Français vont voir La Vache et le prisonnier, dont il a écrit le scénario avec Henri Janson. Charles Bailly, prisonnier en Allemagne, décide de s'évader de la ferme où il est employé. Son plan, c'est de traverser le pays avec une vache tenue en laisse, elle s'appelle Marguerite, et un seau de lait dans la main. Ainsi commence une extraordinaire odyssée pour l'homme et la bête, image paisible dans un monde déchiré par la guerre. Quand il se sépare de l'animal, il lui promet de ne plus jamais manger de veau. Quel pari d'intéresser et surtout d'émouvoir les spectateurs avec une vache, tout en retenue et en sobriété, face à Fernandel qui lui aime jouer et qui aime que ça se voit. Lors de la première du film, les distributeurs ont invité les deux acteurs principaux à venir sur la scène, et voici Fernandel et Marguerite. Apparition de Fernandel qui traîne la vache tenue en laisse et qui dit au public « Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, Marguerite c'est elle, et Fernandel c'est moi ». Le triomphe du film fait d'Henri Verneuil un metteur en scène populaire. Il n'a pas la reconnaissance de la critique, ni de ceux qui nomment les milieux intellectuels, mais il a celle des producteurs, et en particulier des Américains. C'est la Metro Goldwyn-Mayer qui propose alors un contrat à un prestigieux triumvirat. Elle met en chantier trois films avec Michel Audiard au scénario, Henri Verneuil à la réalisation et Jean Gabin dans le rôle principal. Les jeunes aujourd'hui diraient « ça, c'est du lourd ». De leur collaboration vont naître trois classiques de notre cinéma. Le Président, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol. Un film politique, un film romanesque et un pur polar. Trois grands auteurs, Georges Simenon, Antoine Blondin, John Trunnion. On a dit et redit, écrit aussi, que Jean Gabin faisait du Gabin. Alors revoyez ces trois films où l'acteur interprète des personnages très différents, contrastés même. Entre Émile Beaufort, président du Conseil de la 4e République, Albert Quentin, ancien fusilier marin, buveur repenti et patron d'un petit hôtel sur la côte normande, et Monsieur Charles, honorable truand qui sort de prison et tente un dernier coup le casino de Cannes pour assurer sa retraite au soleil, il n'y a aucun point commun, sinon l'acteur Jean Gabin qui les incarne. D'un film à l'autre, il est méconnaissable. Les costumes, les coiffures, les maquillages, les langages créent la différence. Mais c'est de l'intérieur de l'acteur que naît la transformation. Ce travail qui s'accomplit avec le metteur en scène est indéfinissable. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un lieu de rencontre, un territoire, qui est le personnage. Il faut lui donner de la chair et faire surgir la vie avec ses palpitations, ses tremblements, ses parfums, sa beauté, sa crudité, sa cruauté aussi. Lorsqu'on y réussit, c'est peut-être cela, Marc, que vous avez nommé la grâce. Pour Un singe en hiver et Mélodie en sous-sol, c'est la rencontre de Jean Gabin avec deux jeunes acteurs qui donne un élan irrésistible au film et qui leur confère une dimension mythologique, car au-delà des personnages et de leurs relations inscrites dans le scénario, nous y voyons en même temps, en transparence, un acteur légendaire et incarnation des héros anonymes du Front populaire tendre la main à Jean-Paul Belmondo et à Alain Delon, car le vieux, comme on l'appelait, l'a su tout de suite, ces deux-là, il va falloir compter avec eux. Dès les premiers jours de tournage du Singe en hiver, il dit à Henri « Tu vois le gamin, là ? C'est moi, à son âge. » L'histoire du film Mélodie en sous-sol est étonnante. Il fallait engager un jeune acteur pour donner la réplique à Jean Gabin. Alain Delon, qui avait eu vent du projet et qui voulait absolument tourner avec Gabin, fait acte de candidature. Les producteurs américains hésitent, d'autant qu'ils ont déjà pensé à quelqu'un d'autre. Leurs doutes sont surprenants, car à cette date, Alain Delon a déjà travaillé sous la direction d'Yves Allégret, de Luchino Visconti, de René Clément, de Michelangelo Antonioni. Alain Delon propose alors ceci. Je fais le film sans rémunération. Ça, les producteurs, ils adorent. Et il ajoute, laissez-moi juste les droits d'exploitation sur un ou deux territoires. Marché conclu, ce sera la Russie et surtout le Japon. Dès le film terminé, Alain s'envole pour Tokyo avec les bobines de Mélodie en sous-sol sous le bras et sous-titré. Il y organise lui-même une projection. Il y a tellement de monde qu'il en fait une deuxième dans la foulée. C'est un triomphe. Son histoire d'amour avec le Japon a commencé ce jour-là et elle dure toujours. Le film, quant à lui, recevra le Golden Globe, le prix de la presse étrangère à Hollywood. Henri Verneuil est au sommet. Son père, sa mère et tante Gaëné peuvent être fiers de lui. Malheureusement, tante Anna n'est plus là pour l'embrasser. Elle a quitté ce monde il y a plusieurs années déjà, sur la pointe des pieds, pendant qu'Henri terminait ses études. Il manque autre chose pour que le bonheur d'Henri soit complet. Il y a toujours en lui le jeune garçon qui ne veut pas décevoir et qui attend son carnet de notes le cœur battant. Il lui faut les félicitations du jury. Voilà l'occasion de les obtenir. Le film qu'il vient de terminer, 100 000 dollars au soleil, qui réunit Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, est retenu dans la sélection officielle pour le Festival de Cannes. Ça commence mal, la presse attaque aussitôt. Ce film d'aventure, à l'allure et au rythme nonchalant, mérite-t-il tant d'honneur ? Finalement, l'expédition cannoise de 100 000 dollars au soleil passera presque inaperçue, car les critiques ont désigné une autre victime, La peau douce, de François Truffaut, où rayonne Françoise d'Orléac. Nous sommes en 1963, un film dédaigné, donc, celui de Verneuil, un film flingué, celui de Truffaut, qui en gardera longtemps les blessures, et un film célébré et enchanté, Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, qui est couronné de la Palme d'Or. Quittons les marges de Cannes et cap au nord, vers les dunes du Pas-de-Calais, où Henri Verneuil va tourner l'un de ses plus beaux films, Week-end à Zuidcote. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui dans un club de vacances, au Portugal, où nous étions invités à présenter nos œuvres respectives aux gentils membres et à ouvrir un dialogue avec eux. C'est moi surtout qui ai questionné Henri sans relâche. Un nom revenait souvent dans nos conversations, David Lean, et un film, Laurence d'Arabie. Nous étions tous deux fascinés par l'audace du réalisateur britannique, raconter l'intime d'un être et le rendre visible par le spectaculaire, par l'écran large, par les batailles, par l'immensité des sables. Et puis il y a cet aspect fascinant du film où le héros se transforme de manière irréversible en anti-héros. Robert Bolt, l'auteur du scénario, disait à ce propos « Lorsque les hommes font la guerre, leurs plus grandes qualités se retournent contre eux, leurs vertus sont mises au service de la destruction et du carnage. En temps de guerre, nous n'avons pas besoin de chercher un méchant dans l'histoire. Les héros suffisent. » C'est exactement ce qu'aurait pu dire Robert Merle à propos de son livre « Week-end à Zuidcote ». Tiré de la propre expérience de l'auteur, fait prisonnier à Dunkerque en 1940, le livre et le film mettent en scène le sergent Julien Maillat, qui, au plus fort de la débâcle, rate l'embarquement pour l'Angleterre et se retrouve coincé avec quelques camarades de sa compagnie sur les dunes de Zuidcote, sous le feu de l'aviation et de l'artillerie allemande. Julien rencontre Jeanne, une jeune femme qui refuse de quitter sa maison en ruine. Il la persuade de fuir avec lui et dit adieu à ses amis, mais le destin est en marche et Julien mourra sous les obus de l'ennemi. Film épique, avec des scènes de guerre impressionnantes et en même temps étude fouillée des personnages, illustration des comportements et des dérives humaines en temps de guerre, où chacun se trouve face à des choix à la brutalité immédiate, vivre en lâche ou mourir en héros. Ce film est une splendide réussite, où les comédiens Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, François Perrier, Pierre Mondy sont portés par leur amitié réelle et le bonheur de jouer ensemble. Une fois de plus, les Américains ne s'y trompent pas et ils offrent à Henri de travailler pour eux, mais chez eux cette fois. Henri fera deux films là-bas avec le même acteur, Anthony Quinn, mais malgré le confort, les moyens mis à sa disposition et la force symbolique de son appartenance à Hollywood, quel signe éclatant de sa réussite, de Rodosto à Los Angeles, de la mer de Marmara au Pacifique, il n'y restera pas. Henri s'est trouvé une patrie, la France, une maison, le cinéma français et une famille, les acteurs et les techniciens auxquels il est fidèle, autant qu'eux le sont avec lui. Il va faire ses films américains, mais chez lui, à la maison. Le film du retour en France, c'est Le clan des Siciliens. Adapté d'un roman d'Auguste Le Breton, par José Giovanni et Henri Verneuil lui-même, interprété par Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura, musique signée par Ennio Morricone. Le film est un immense succès et devient très vite un classique. Henri Verneuil est toujours le metteur en scène le plus populaire du cinéma français. Il partage ses faveurs avec Gérard Oury, qui vient de réaliser La Grande Vadrouille. C'est l'époque où une distinction assez détestable au demeurant sépare les films et les œuvres. Il y a les films d'auteur et le cinéma commercial. Pas sorcier de deviner dans quelle catégorie la presse dite intellectuelle, à défaut d'être intelligente ou sensible, a placé M. Henri Verneuil. Le succès, c'est commercial. Henri en souffre. Les mots qu'il a pour le dire sont sans ambiguïté. Au-delà de la notoriété, il désire la reconnaissance. C'est comme ça, c'est ancré en lui et chevillé au corps. Et puis Henri est un homme concerné par la marche du monde. C'est l'héritage de son enfance. Il se dit qu'il peut aussi réaliser des films avec les questions qu'il se pose. Tout en enchaînant une série de succès avec des films d'action teintés d'humour, comme Le Casse, un formidable jeu du chat et de la souris dans la ville d'Athènes, entre cambrioleurs et policiers, Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif, qui est un pur plaisir de cinéma, ou encore Peur sur la ville, autre classique du film policier, il met en chantier deux films très différents, très atypiques dans la production nationale et plus proches des cinémas américains et britanniques. Le premier, I comme Icar, raconte l'enquête menée par un procureur sur l'assassinat du président d'un pays fictif, jamais nommé, mais l'inspiration de Didier Decoin et Henri Verneuil est évidente et assumée, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le noyau dur du film, c'est la manipulation. Le récit est construit autour des travaux du psychologue américain Stanley Milgram. Celui-ci démontre que 2 personnes sur 3 peuvent être amenées à infliger un choc électrique dangereux, voire mortel, à une personne qu'ils ne connaissent pas et dont la seule faute est de s'être trompée dans un test de mémoire. Le cadre de l'université et l'autorité présumée des organisateurs de l'expérience suffisaient à légitimer aux yeux des individus recrutés pour le test une telle barbarie. L'expérience était truquée et aucune décharge électrique n'était réellement infligée. Mais ça, les participants de l'expérience ne le savaient pas. Les crimes de masse perpétrés au XXe siècle, en Europe, en Asie et en Afrique, ont été souvent étudiés dans la perspective de cette thèse de Milgram. Des sujets ordinaires peuvent se comporter en bourreaux dès lors qu'ils sont soumis à une autorité. Ils agissent en considérant que leur responsabilité individuelle n'est pas engagée. Yves Montand, acteur et citoyen engagé, voulait absolument obtenir le rôle du procureur. Pour rencontrer Henri Verneuil, il s'est fait une tête. Cheveux gris, coupe en brosse, lunettes sévères, costume sombre 3 pièces à fines rayures. Verneuil enchanté à tout garder, l'acteur y compris. Ils ont dû évoquer la Marseille de leur enfance, où Yves Montand, qui se nommait alors Yves Olivy, est arrivé à l'âge de 2 ans, en 1923, car son père et son oncle, paysans communistes de Toscane, avaient choisi de fuir l'Italie pendant la montée du fascisme. Lino Ventura, lui, est arrivé en France en 1927. Imaginez le cinéma français des années 1950-1990 sans ces trois-là. 3 hommes nés sur une terre étrangère que le cinéma français a adoptée. Notre cinéma est une terre d'accueil. Et j'espère que nous continuerons à recevoir ces hommes et ces femmes, producteurs, réalisateurs, acteurs, techniciens, qui font notre force et notre talent et qui sont venus de tant d'horizons divers. I comme Icar se situe à une croisée des chemins dans la vie et l'œuvre d'Henri Verneuil. À Gop, son père est mort, et sa disparition a pris Henri de court. Il n'a pas eu le temps de s'occuper des obsèques comme il le voudrait, et le discours du prêtre à la messe de funérailles le déçoit. Mais surtout, la dernière fois que père et fils se sont vus, il y a eu un malentendu entre eux, qui ne sera jamais dissipé. Tante Gaïané et Maïrig sont venus vivre à Paris, tout près d'Henri. Le film suivant, 1 000 milliards de dollars, reçoit un accueil tiède. Pourtant, il est visionnaire et le propos d'Henri, limpide. Il y dénonce, je le cite, « les dangers de la mondialisation. Propice à l'apparition de sociétés aussi tentaculaires qu'inhumaines, dans lesquelles chacun n'est qu'un pion jetable à volonté, obligé de faire sans cesse du profit pour espérer survivre au gré et malgré des gouvernements qui se succèdent ici et là. » Nous sommes en 1982. Qui dit mieux ? Henri est déçu, il vient de faire des films sur l'état de la société et la place laissée à l'homme dans ce nouvel ordre mondial, mais il n'a pas convaincu son public sans en trouver un autre. Ce qu'il lui faut, c'est une virée entre copains. Une virée avec eux, ça finit en tournage. Au soleil du Maroc, avec Jean-Paul Belmondo et sa bande, action, aventure, comédie et Michel Audiard. Un coup de jeune en quelque sorte. Mais un mirage aussi, car les anges protecteurs d'Henri ne sont pas immortels. C'est le tour de Tante Gaïané de partir. Henri installe Maïrig chez lui. Son bonheur du jour, c'est de l'avoir s'occuper de ses petits-enfants, comme elle le faisait avec lui. Et il se met à écrire, je le cite encore, « Pour retenir ces heures qui passent si vite, pour rejoindre à reculons une enfance de milliardaire en amour. Enfance au vaste appétit de grandir, adolescence aux grandes ambitions qui dévorent et conduisent un soir aux agonies de ceux que l'on n'a pas vu vieillir, tandis que chacun de leurs cheveux blancs annonçait déjà un cimetière de printemps. Je réalise avec le recul du temps que durant toutes ces années où nous nous sommes tant aimés, jamais nous n'avons dit que nous nous aimions. Dans une commune pudeur, par crainte de souligner lourdement un état évident, permanent, irrévocable, le recours des mots paraissait dérisoire. On s'aimait de naissance. Tout le reste devenait un inutile sous-titre. Après la mort de sa mère, il ne s'arrête pas d'écrire. Le livre, intitulé « Sobrement Maïrig », part en 1985. Henri n'avait pas imaginé que de cette histoire, la sienne, il pouvait faire un film. Le succès du livre lui donne l'audace et le désir de le faire. Beaucoup de cinéastes ont fait des films sur leur mère et leur père. La plupart de ces films signent les débuts d'un réalisateur ou alors viennent au temps de l'accomplissement lorsque leurs œuvres trouvent une portée universelle, comme pour Bergman avec Fanny et Alexandre. Mais comme une dernière œuvre, comme un film testament, portrait à la fois de son père et de sa mère, je n'en connais pas d'autre que Maïrig. D'ailleurs, sa fidèle équipe ne reconnaît pas Henri Verneuil. Comme avant, il arrive sur le plateau avec les découpages précis des scènes à tourner, mais il remet fréquemment en question ses intentions, ses décisions, et il réécrit la nuit des pages entières du scénario. On dirait un metteur en scène qui réalise son premier film. Toute cette attitude est racontée par le tournage de la scène des funérailles de son père. Il faut trouver un acteur pour endosser le costume du diacre de l'église apostolique. Margot Capelier, la pionnière des directeurs de casting en France, présente plusieurs acteurs à Henri qui ne le convainquent pas jusqu'au jour où elle explose. « Monsieur Verneuil, vous me cassez les pieds. J'ai fait venir des acteurs de talent, prêts à jouer ce rôle très court parce qu'ils veulent travailler avec vous. Ils ne vous plaisent pas. Très bien. Alors c'est vous qui allez le jouer. » Et Henri accepte comme si c'était ça qu'il attendait. Vient le jour du tournage. Henri revêt la soutane. Le coiffeur colle la longue barbe sur ses joues. Il pose la croix sur sa poitrine. La nuit précédente, il a réécrit le discours du diacre en langue arménienne, et il va pouvoir enfin rendre à son père l'hommage que celui-ci méritait. Moteur, ça tourne. Action, lance l'assistant réalisateur. Henri, la voix blanche, attaque son texte, mélange de lyrisme et d'amour filial. Il ne pourra pas terminer la première prise, car l'émotion le submerge. Les larmes coulent. L'équipe garde le silence. Il faut faire quelques raccords de maquillage, recoller la barbe. Henri ira au bout de la prise et au bout de son discours, tant préparé. C'est son véritable adieu à son père. Je vous remercie vraiment, cher Omar Sharif, d'être avec nous aujourd'hui, vous qui avez magnifiquement incarné Jacob Malakian. Henri Verneuil a remonté le temps. Il a accompli ce chemin particulier de la connaissance de ses parents ou de leur reconnaissance. Lorsqu'Ingmar Bergman veillait sa mère, épuisée par la maladie et qui attendait la fin comme une délivrance, un soir, celle-ci posa sa main sur celle de son fils. « Sommes-nous des amis ?» lui demande-t-elle. Elle désirait que son fils la regardât comme une personne, comme une femme, pas comme une mère. À travers son dernier film, Henri Verneuil a fait ce chemin. C'est un beau cadeau fait à un père et à une mère. En les regardant autrement, nous leur rendons la liberté et l'indépendance, celles qu'ils avaient rêvées pour nous. Henri Verneuil a été inhumé, selon sa volonté, au cimetière Sainte-Pierre à Marseille, aux côtés d'Agop, de Maïrig, de ses tantes Anna et Gaïané, tous les cinq ensemble, comme sur le bateau qu'ils avaient amené de leur terre natale. Le matin de la mort de Maïrig, le livre de poésie arménienne qu'il n'a quitté jamais était resté ouvert à la page de ses quelques vers. « Nous étions en paix comme nos montagnes, vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes, vous avez hurlé comme les vents fous. Éternels nous sommes comme nos montagnes, et vous passerez comme des vents fous. » Je me tourne vers vous, chers académiciens, et je vous remercie d'abord d'avoir accueilli Henri Verneuil parmi vous. Cette reconnaissance, c'est vous qui la lui avez apportée. Il en a été très fier et très bouleversé, je l'ai entendu de ses proches. Vous avez su voir quel homme et quel créateur il était. Je pense à ces femmes et à ces hommes dont la beauté ou le charme sont si présents qu'ils nous empêchent de voir qu'ils ont aussi de l'esprit. Pour Henri Verneuil, c'est pareil. Le succès a caché son talent. Je vous remercie de m'avoir jugé digne d'être installé parmi vous au fauteuil de cet artiste prestigieux. Il m'a fallu du temps pour me préparer à cette journée, 4 ans. Le temps pour moi de faire connaissance avec vous tous et d'accepter cette idée que ma présence dans cette illustre maison avait quelques raisons d'être. Rendre hommage à Henri Verneuil est un honneur. Voir ou revoir ses films a été un grand plaisir. Il fait partie des auteurs et réalisateurs pour qui je me rendais au cinéma sans savoir grand-chose du film. Son seul nom suffisait. Pour vous parler de lui, je me suis rapproché de lui. J'ai vu l'évolution de son œuvre. La joie d'accéder à ce métier dont il rêvait, l'assurance que c'était bien là sa destinée, puis la maturité d'un grand patron et artiste du cinéma français, et enfin la gravité et la mélancolie qui fondent ses films les plus récents. Son nom, bien sûr, évoque l'action, la comédie, l'aventure ou encore l'épopée. Mais il a aussi embrassé le XXe siècle, avec ses monstruosités. Il avait, je pense, une vision assombrie de notre condition humaine. Comme le raconte La 25e heure, inspirée du livre de Virgile Georgiou, l'un de ses films auquel il était très attaché. C'était la marque indélébile de son enfance, arrachée à sa terre par les vents fous. La suprême élégance d'Henri Verneuil aura été de nous le cacher, en nous offrant des films et une œuvre qui clame le contraire, sa foi dans l'amitié, dans l'amour, dans notre humanité, dans la vie tout simplement. Je n'aurai pas le dernier mot aujourd'hui. Si tout va bien, je vais le céder à Henri lui-même avec le soutien de ses interprètes.
C'est qu'une poche, l'abbé. Eh ben, on est dans une poche. Quand t'auras 60 ans, tu pourras dire à tes paroissiens, les Fritz m'ont fait prisonnier dans la poche de Dunkerque.
Ils me feront pas prisonnier. Ça se traverse, une poche, hein?
Bon, bah alors, faut prendre une décision.
On s'en va.
Où ça?
À la mer. On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? C'est ce que tu lui écriras, l'abbé. Qu'il est mort en héros, que son moral jusqu'au bout est resté exemplaire et que son sacrifice n'aura pas été vain. Je connais la chanson.
Tu sais, dans ces cas-là, on n'écrit pas ce qu'on veut.
Moi, je sais ce que je lui écrirai à sa femme. Qu'il est mort en allant chercher de l'eau pour faire du café à ses copains. C'est tout.
Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça?
Si ça vous ennuie, je peux vous tourner le dos. Vous êtes plutôt du genre timide et renfermé.
Bah, comme toi, tu l'es pour, ça fait une moyenne, hein?
Cher Maxime, je suis une femme sans mystère, sans attache, sans amour. T'es heureuse, réflexion faite.
Résignée?
Oh, il y a les souvenirs. Ce sont des compagnons discrets.
Qui cherchent à se faire oublier?
Qui se réveille comme d'anciennes douleurs. Et puis il y a les petits coups de théâtre du hasard. Ils vous aident à vivre.
Sartet. Oui, Roger Sartet. Vous m'attendiez par l'avion de 14h, hein? Ben, j'ai pris celui du matin. Avec des ordures comme vous, j'ai eu raison de me méfier. Alors écoutez-moi bien parce que je vais vous dire ce que je vois en ce moment. Aldo, Sergio et Louis, emballés par les flics. Vous êtes même servi de ma sœur. S'il la garde plus de 2 jours, je vous fais sauter à la grenade, vous et toute votre kermesse. Et en attendant, je veux mon fric. Oui, ma part.
Mais il est là, ton fric. Quand tu veux et où tu veux.
J'ai vu la police chargée des grévistes. Je l'ai vu aussi chargée des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe.
Je n'ai eu qu'une maîtresse, la France. Pour le reste, je me suis toujours adressé aux maisons closes et aux théâtres subventionnés.
Ta gazelle, hein, quand même. 20 ans après, tu t'en souviens encore. On est marqués tous les deux. On est tatoué, rien à faire. Alors qu'est-ce qui t'arrive, mon chinois, t'es tout pavoisé? Elle me ressemble?
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes.
Eh, hey, ma pauvre Marguerite, il va falloir se quitter. J'aurais aimé te garder, mais si je t'en mêle, on coule. Ça me fait de la peine. Et d'un côté, il vaut mieux parce que ici, tu es chez toi. Tu as tes habitudes. Et oui. Et puis tu comprends la langue. De toute façon, je n'aurais pas pu te garder parce que j'habite un quatrième sans ascenseur. Hein? Tu me comprends, dis. Tu m'aurais pas dit. Hein? Marguerite. Adieu, Marguerite. Adieu, ma vieille copine.
Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Et vous, à qui vous me faites penser? Un de ces singes égarés, comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids.
Tu te souviens de cette robe? On l'appelait la robe arc-en-ciel parce que tu me l'avais offerte après un orage en chambre. Je t'avais asticoté et tu m'avais flanqué une tripotée. De ce temps-là, on savait aimer. Maintenant, avec le progrès, nostalgie.
Bonsoir, monsieur Malaise. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là.
Je vous avais dit de passer quand vous vouliez.
On dirait que vous avez encore eu de la chance.
Si on peut dire.
Alors, on y va?
On y va.
Merci tous de votre venue et de votre attention, et surtout ma gratitude à Françoise Bonneau et Patrick Malakian qui m'ont accompagné de leur bienveillance pour préparer cette journée. Merci.
La séance est levée et vous êtes conviés à la cérémonie de remise de l'épée à la salle Comtesse de Caen, tout près d'ici dans la cour.
C'est au cours d'une conversation avec Catherine Deneuve à propos de cet objet dangereux, une épée, que nous avons imaginé qu'elle soit fabriquée selon un modèle ou une inspiration asiatique. Quelque temps plus tard, lors d'un voyage de repérage au Cambodge, j'ai fait la connaissance à Phnom Penh de l'armurier et ferronnier Dominique Éluère. Il m'a montré des sabres, des dagues, des poignards de sa création. Je lui ai alors confié sans hésiter la réalisation de cette épée pour l'Académie. Ma première demande fut la présence des quatre éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Empédocle, 400 ans avant notre ère, a dit à propos des quatre éléments, l'amitié les rassemble et la haine les sépare. L'air est partout, il souffle, il porte, il assèche. La terre sera dans les bois et les métaux. Le feu dans lequel la lame est trempée plusieurs fois renforcera sa solidité. Et l'eau, c'est pour cet élément, source de toute la vie sur Terre, que Dominique Éluère a pensé au galuchat. Le galuchat, c'est le cuir de l'océan, un cuir de poisson cartilagineux en partie minérale, de raie ou de requin. Il est recouvert de perles de silice et présente différents aspects, granuleux et brillants ou bien poncés. Dans ce cas, il est lisse et laisse apparaître une surface cloisonnée de petites cellules qui sont autant de rangées de perles scintillantes. Dès le 8e siècle, les Japonais en ont gainé les fourreaux et les poignées des sabres. Jean-Claude Galuchat était le maître gainier du roi Louis XV. Il fit à ce point référence que son nom devint synonyme de la matière. Actuellement, le galuchat le plus réputé est celui de Thaïlande et du Cambodge. Le modèle de l'épée sera une arme de la dynastie des Han, qui ont inventé entre autres le soc pour la charrue, le gouvernail pour les bateaux, le sismographe et l'anesthésie générale, que j'adore. La Chine connut sous leur règne 400 ans de paix. Le symbole sera à partir du mot grec « kino », origine du mot « cinéma », le mouvement. Puis a commencé la correspondance avec Dominique Éluère. Dominique, comment allez-vous ? J'ai bien reçu les photos de la lame et je vous en remercie. Est-il possible d'inscrire une devise ou une maxime dans le fer de la lame ? Le mouvement, vague, ondulation, ligne courbe, sur quelle partie de l'épée pouvez-vous le représenter ? La lame, la garde, le pommeau ?
Je peux graver une devise, ou ce que vous voudrez sur la lame, la soie ou autre partie présentant une surface à peu près plane. En latin, elfique ou turcoman. Je peux aussi graver des kanji. Nous avons trempé une lame avant-hier, ça s'est bien passé. J'irai au résultat ce soir. Je prends très au sérieux la tradition de l'épée, donc ne vous en faites pas.
Je suis rentré hier de Russie et je viens en nouvelle. Voici la citation du philosophe allemand Adorno que j'aimerais avoir gravée sur l'épée. « Seul celui-là t'aime, auprès duquel tu peux te montrer faible, sans provoquer la force. » D'autre part, j'ai réfléchi à la musique. Comment figurer le « la », la tonalité, mais aussi le ton, l'humeur, la direction. Le compositeur que je place loin devant tous les autres est Jean-Sébastien Bach, qui me semble avoir creusé le même sillon toute sa vie, jusqu'à l'épure. C'est de lui que j'ai appris que la simplicité est la marque du talent, voire du génie. Rappelez-moi ce qu'est la soie et aussi ce que sont les kanji.
La soie, c'est la partie de l'épée qui se trouve à l'intérieur de la poignée. On ne la voit pas, mais c'est pourtant une partie très importante, sans laquelle plus rien n'a de sens. Les kanji sont des caractères chinois, des idéogrammes, adaptés aux japonais. Jean-Sébastien Bach disait, paraît-il, « Je n'ai aucun talent, je travaille ». D'où on peut sans danger présumer, un, qu'il était modeste, deux, qu'il travaillait beaucoup. J'aime en particulier le concerto pour deux violons interprété par les Oistrakh, père et fils. À propos de la citation, il y a deux sortes de forces, celle qui oppresse et celle qui protège. Sur la soie de nos sabres est écrit en japonais « Je protège mon peuple ». Connaissez-vous la légende de l'épée qui chante ? Le travail avance doucement. Nous avons attaqué hier la garde. C'est un gros morceau. Je vais faire des photos et vous les envoyer. Postscriptum. Voulez-vous que la lame soit tranchante ?
Pour la lame, pas trop tranchante, s'il vous plaît. Non, je ne connais pas la légende de l'épée qui chante et je suis très curieux de la découvrir. Pour la musique, d'accord pour un symbole qui se lit dans toutes les langues. Pour la soie, j'aimerais bien un kanji qui symbolise la force.
L'épée qui chante, bien connue des lecteurs de Prince Vaillant, était une épée merveilleuse. Dégainée, elle chantait et rendait invincible celui qui la portait, mais elle avait aussi la particularité de refuser obstinément de sortir de son fourreau si on cherchait à l'utiliser pour une cause injuste. Tout un programme. J'ai retravaillé le fourreau que je trouvais trop massif. Il y a donc maintenant une double vague, et c'est beaucoup mieux. Il est en bois de jacquier que j'ai fait venir des montagnes du Nord. Le galuchat sur le fourreau est en place, et nous terminons la bouterolle asymétrique. Nous allons attaquer demain la laque et la gravure. Le garçon qui travaille sur votre épée est mon meilleur artisan, et en plus, il est d'une grande gentillesse. Il se nomme Sinoun. PS, votre épée a reçu une trempe différentielle, qui fait qu'elle présente deux duretés différentes. Et ça se verra sous la forme d'une vague d'aspect nuageux dans l'acier.
Merci pour les photos, ça m'a l'air très beau et en bonne voie. Va pour une clé de sol, à moins que vous ne connaissiez les notes de la première fugue du clavecin bien tempéré. J'aimerais bien que nous fassions le point sur l'épée, car la date de la cérémonie approche. C'est dans 4 semaines. Cordialement.
Aujourd'hui, nous avons fini et bronzé la bouterolle. Non, ce n'est pas un champignon. Attaquer la gravure de la garde, c'est pas du gâteau, mais du bon acier, en vertu de quoi je préférerais m'en tenir à la clé de sol. Et le polissage de la lame, afin de faire ressortir les lignes de trempe. Demain, on continue.
Et c'est quoi la bouterolle ?
La bouterolle est un morceau de métal, plus ou moins joli, qui protège le bas du fourreau. La couleur finale du bois du fourreau sera, comme vous l'aviez demandé, un noir brillant et profond. Ah oui, et le baudrier ? Vous allez la porter comment, cette épée ? On a presque fini, mais pas tout à fait. La laque de l'étui, c'est long, la laque. En principe, ça prend 3 mois. Je vais faire expédier votre épée demain par EMS, afin que vous ne soyez pas tout nu le 1er février. Si nécessaire, je la reprendrai après pour les finitions de détail.
Je n'arrive pas à voir sur le site internet de EMS où se trouve notre épée, qui devrait être entre mes mains depuis 2 jours au moins. Avez-vous des nouvelles ou non ? Rebonjour, ça y est, l'épée est arrivée et elle est superbe. Je suis très heureux et très soulagé. Il est question d'un prochain voyage au Cambodge au début du mois de mars. À très bientôt, j'espère. J'ajoute une petite chose. L'épée est dans une boîte en fer cadenassée avec des cadenas très puissants dont je n'ai pas les clés. Tant pis, j'appelle un copain, on va faire sauter les serrures, ce que nous avons fait.
C'est pour moi aussi un profond soulagement de savoir, un, que l'épée est enfin entre vos mains. J'avais promis à Sainte Radegonde un cierge massif en cas d'intercession réussie, ça va me coûter cher. Deux, quel est à votre goût ? Les compagnons qui ont travaillé sur votre épée seraient contents, je pense, d'avoir une photo de vous le grand jour. Puisse cette épée vous accompagner dans la suite de votre carrière et, de temps à autre, vous faire souvenir de nous.
Quand elle a appris la tradition de l'épée, Colette s'est écriée « Mais que ferais-je d'une épée ? Je veux plutôt un sabre d'abordage ou deux pistolets à ma ceinture. » C'est la première fois de ma vie que je porte une épée et je n'ai jamais eu aussi peur. Avoue Édouard Herriot lors de sa réception à l'Académie française en 1947. Une épée que nos amis nous offrent, sans doute aussi afin de nous protéger contre nous-mêmes, a dit Jean Cocteau à l'Académie française en 1955. Pour n'avoir vécu depuis l'âge fragile que dans la violence, guerrière ou intellectuelle, j'ai donc longtemps rêvé de ne jamais porter l'épée. Voilà ce qu'a dit Michel Serres en 1991. L'épée d'académicien ne fut pas conçue comme une arme, mais comme le portrait de celui qui l'arbore. Elle est à la fois souvenir, reflet et espoir. Loin d'annoncer quelques luttes à venir, elle est signe d'existence et par là impose le respect. Elle est aussi la force d'une œuvre d'art qui illustre à travers de précieux matériaux un parcours, un esprit, un envol. À elle seule, l'épée est un portrait. Je vous la remets.
Vous
allez l'ouvrir.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie d'installation de Régis Varnier au sein de l'Académie des Beaux-Arts et la cérémonie de sa remise d'épée. C'était le mercredi 1er février sous la coupole de l'Institut de France.